Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, nous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père en son Fils, Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Soyez ici, chez vous, dans cette maison où nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu, à sa parole par la lecture de la Bible et aujourd'hui par le partage de la scène et pour le célébrer par le chant et la prière. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Bienvenue et merci en particulier à David Cassan pour son accompagnement musical à l'orgue ce matin. Ensemble, prions. Éternel Dieu de la vie, nous sommes rassemblés pour ce temps de culte et permets que nous soyons, avec la diversité qui nous caractérise, une communauté de prière et de joie. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde et que notre foi fasse grandir notre amour pour notre prochain. Éternel, envoie sur nous ton esprit afin que nous vivions ce culte, le cœur apaisé. Amen. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, je vous invite à vous lever. Ensemble, louons l'Éternel avec quelques versets du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Je vous invite à poursuivre notre louange En prenant maintenant le chant du psaume 81, que nos chants joyeux. De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et vivras. Prions ensemble. Il y a des jours, mon Dieu, où je suis bloquée dans tout ce qui fait mon être à moi, dans mes pensées, je n'arrive pas à m'ouvrir, comme si quelque chose d'étrange bloquait tout ce qui est de l'ordre du rêve, tout ce qui est de l'ordre du sentir, tout ce qui est de l'ordre de la relation. Alors si tu savais combien je me retrouve dans la peau de cet homme paralysé de l'Évangile, et aussi combien je comprends sa famille, ses amis, son entourage, parce qu'ils font tout pour le débloquer. Comme lui, mon Dieu, j'aimerais bien qu'on fasse tout pour moi, même ce qui me semble impossible. Il faut avoir du courage pour faire ce qu'ils ont fait, pour faire aussi ce qu'il a fait ou laissé faire, lui, le paralysé. Il a sûrement tenté de passer. La foule l'a peut-être empêché de rentrer. Mais il n'était pas le seul. Peut-être y avait-il d'autres infirmes avec lui. Peut-être que certains se sont découragés. Ils sont repartis chez eux avec leurs souffrances muettes, leurs membres engourdis, paralysés. Mais moi, mon Dieu, je veux être comme lui. Et aujourd'hui, je ne veux pas rentrer chez moi avec ma souffrance. Je ne veux pas me laisser enfermer par mon péché, quel qu'il soit, parce que c'est cela qui me paralyse. C'est cela qui bloque mon regard, qui ferme mon cœur, qui engourdit mes membres tout entiers. Et je suis là, parfois sans parole, sans regard, sans geste. Si je suis bloquée sur la civière de ma vie, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui m'aide à te rencontrer. Si quelqu'un m'aidait à passer la foule de mes idées parasites, la foule de mes angoisses, la foule de mes préoccupations inutiles, de mes occupations oisives, si quelqu'un m'aidait à percer le toit, à crever le toit de ma souffrance, de mes inquiétudes, de mes peurs qui me paralysent, alors je serais près de toi. Et toi, tu me dirais, lève-toi. Et sûr, je me lèverai. Amen. Accueillir le pardon de Dieu dans nos vies, je vous invite à vous lever. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque mette sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais que par lui, le monde soit sauvé. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je vous propose de confesser notre foi avec un texte de Claude Perron. Dieu est d'abord question qui nous empêche de nous enfermer dans nos préjugés, nos évidences, nos certitudes. Il ouvre l'horizon, il nous ouvre à l'avenir. Dieu est question. N'en faisons pas trop vite une réponse et encore moins un catalogue de réponses. Dieu n'explique pas le monde, il veut le transformer pour nous et avec nous. Jésus est parole qui interpelle, qui relève. Homme parmi nous, il est signe et présence de Dieu, question au cœur du monde. Dans l'histoire et ses tragédies, dans l'actualité et ses drames, une parole surgit. Un amour fragile et menacé est encore là qui aspire à s'incarner encore en nous. L'Esprit souffle de Dieu me donne d'entendre sa parole à travers les Écritures. Il me permet de rencontrer la personne de Jésus. Il est aussi souffle qui me pousse vers les autres et qui me donne ainsi des frères et des sœurs. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, nous lirons les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm où l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Merci, Éternel, pour cette parole qui nous rejoint d'une façon ou d'une autre, exactement là où nous en sommes. Amen. Et dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre maintenant le cantique 390, consacre à ton service. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fais germer la semence, que ta parole accomplisse sa mission au cœur de mon existence, que ta volonté féconde ma vie, que ton amour lui permette de porter des fruits, et quels que soient les chemins sur lesquels j'avance, qu'il me reste toujours un moment pour te dire ma gratitude. Par mes mots comme par mon chant. Amen. Amis, frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas entendu au moins une fois dans sa vie « Ce serait bien que tu ranges ta chambre, c'est un véritable Capharnaüm. » Eh bien, il semble bien que cette expression vienne tout droit de ce fameux petit village de Galilée où Jésus, en son temps, a provoqué un véritable désordre. En effet, Jésus séjourne dans cette petite ville de pêcheurs où il a choisi ses premiers disciples, où il a prêché, réalisé quelques miracles, même si au final, les habitants de cette bourgade ne saisiront pas forcément l'importance de son message. Mais pour le moment, Jésus est dans cette ville, il enseigne dans une maison dont on suppose qu'elle est à Simon, et énormément de monde se rassemble pour écouter Jésus. Nous sommes au tout début de l'évangile de Marc et déjà la notoriété de Jésus semble importante. La foule envahit la maison, bloquant la porte d'entrée, et sans aucun doute, cela laisse présager un message exceptionnel. Tout le monde se presse pour l'entendre annoncer la parole. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste ? L'évangéliste Marc ne nous dit rien à ce sujet, mais on peut deviner que Jésus explique avec ses mots personnels le fondement de la foi juive. Il reprend un à un les textes de la Torah, il les actualise de façon différente, peut-être pour essayer de tenter de réformer la religion de son temps. Et quel est-il ce message ? Les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est approché. Mais comment dire cela ? Jésus est un enseignant, nous devrions avoir de sa part quelque chose de structuré, un discours bien organisé, avec un plan bien construit, pour que tout ce qui sera dit soit bien mémorisé et que chacun puisse, le moment venu, en faire son miel. Un peu comme le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Mais finalement, on ne sait rien du contenu de ce qu'il enseigne, en tout cas dans ce passage. Coup de théâtre. Jésus est interrompu dans son enseignement oral. Alors qu'il parle à la foule, voici qu'un homme paralysé, porté par quatre de ses amis, est descendu par le toit de la maison. C'est vraiment le désordre à Capharnaüm. Fermons les yeux et imaginons la scène. Tout d'abord, un nuage de poussière qui envahit la pièce. Et chacun se protège comme il peut des gravats qui tombent du toit. Que les hommes viennent d'ouvrir pour laisser passer ce brancard. Chacun entend sûrement les directives des hommes qui guident la progression de la civière du haut jusqu'en bas. Sans doute rassure-t-il aussi le paralysé qui peut-être n'emmène pas large. Et dans la pièce, chacun y va sans doute de son propre commentaire, s'esclaffe ou s'indigne, et on se pousse finalement pour faire de la place aux nouveaux venus. Parce que tout de même, c'est vraiment le désordre dans cette maison. Et même si les paralysés s'invitent à l'enseignement de Jésus, mais où va-t-on, je vous le demande ? En tout cas, l'auditoire est totalement déconcerté et déconcentré. Et Jésus est obligé de se taire au milieu de cette confusion. Terminez la leçon de théologie. Au placard, la théorie de cette situation désordonnée va naître tout autre chose qu'une leçon de théologie ou qu'un enseignement sur Dieu. Et nous allons voir la naissance d'une actualisation de ce qui est Dieu dans la vie quotidienne. Jésus va prendre au sérieux l'arrivée de ce paralysé qui ne sait pas encore qu'il vient de briser l'architecture d'un enseignement au profit de la fécondité d'une parole instructive. En tant qu'enseignant de la parole, Jésus aurait pu remettre de l'ordre dans ce Capharnaüm domestique. Il aurait pu attendre que le paralysé et ses amis s'installent, et le calme revenu, il aurait pu reprendre le cours de son enseignement. Mais Jésus n'en fait rien. Il continue de se taire. Il observe son auditoire. Il prend le temps de voir comment les choses se passent. Il parcourt du regard l'assemblée. Il écoute les propos de chacun. Il regarde comment le paralysé est accueilli. Seuls les scribes ne disent rien. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien ? Mais Jésus note tout ce qu'il remarque dans sa mémoire. Il fait silence en lui-même, il écoute, il observe, il est présent à son environnement, il est attentif à toutes les postures, aux émotions des gens, aux paroles échangées, aux réactions de toutes sortes et, je dirais, heureusement. Sinon, comment son enseignement serait-il pertinent ? Et toute cette attention est mentionnée dans l'Évangile avec ces simples mots « voyant leur foi ». Oui, voyant leur foi, celle du paralysé, celle des quatre hommes qui l'ont porté. Et voilà que Jésus dit à cet homme paralysé « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Et là, deuxième coup de théâtre, la surprise change de camp. Personne ne s'attendait à cette parole de Jésus, lui qui, au milieu du brouhaha, aperçut l'attente profonde de cet homme paralysé. Et alors qu'il n'a rien demandé, Jésus y répond par ces mots « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Il me semble que nous sommes devant une conversion intérieure que seul Jésus peut discerner. Quelque chose est en train d'advenir dans la vie de l'homme paralysé, une guérison est en train d'avoir lieu sans que nous soit donnée une quelconque explication. Nous ne savons pas dans quel état d'esprit est arrivé cet homme, mais on peut supposer qu'il souhaitait être guéri d'une façon ou d'une autre. L'homme paralysé est maintenant devant Jésus, la rencontre a lieu et Jésus change subitement la demande implicite du paralysé. Et au lieu de répondre à une attente d'une guérison physique, Jésus répond d'abord à l'angoisse intime de cet homme face au mal, au péché, à la maladie. Et Jésus va plus loin que l'incapacité physique de cet homme. Cet homme ne peut plus bouger dans son corps, mais il est également bloqué dans sa relation à Dieu. Car dans son environnement, être infirme, cela veut dire être puni par Dieu pour des fautes commises par lui ou par les siens. Alors, entrer dans la vie avec un handicap pareil, en se sentant perpétuellement indigne devant Dieu, cela n'arrange ni les relations avec Dieu, ni avec les autres, ni avec soi-même. Et Jésus, disant au paralysé « Mon fils » ou encore « Mon enfant » dans d'autres traductions, « Tes péchés sont pardonnés », par ces simples mots, Jésus annule pour toujours la malédiction qui liait le péché et la maladie, le péché et l'infirmité. La parole de Jésus devient une parole libératrice au sens premier du terme. Il rétablit d'abord l'homme dans sa relation avec Dieu avant de rétablir cet homme dans la relation avec son corps. L'homme est guéri physiquement parce qu'il est d'abord guéri spirituellement en étant délivré de cette malédiction qui liait l'infirmité physique à une punition de Dieu. Jésus emploie à son égard un langage particulièrement affectif. Mon fils, mon enfant. Jésus souhaite toucher la part la plus sensible, la plus vivante en cet homme, enfermé dans son corps pétrifié. Et Jésus s'adresse à la part intime de la personne qui souffre. Il s'adresse à tout ce qui est caché, à tout ce qui ne peut pas s'exprimer. Et en même temps, la parole que Jésus prononce porte en elle la guérison qu'elle opère. D'une certaine façon, Jésus réintègre cet homme dans la filiation divine. C'est un nouveau départ et Jésus ne dira-t-il pas un peu plus tard, « Laissez venir à moi les petits-enfants, si vous ne leur ressemblez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La parole de Jésus est d'autant plus performante qu'elle est prononcée sans préambule et elle s'achève tout aussi brusquement. Et c'est Jésus à son tour qui provoque un coup de théâtre. Personne ne s'attendait à une telle parole. Nouveau désordre. Jésus provoque son auditoire. Dans le sens étymologique du terme, provoquer, c'est-à-dire appeler au dehors. Et c'est ce que Jésus va faire. Appeler le paralysé à sortir de son infirmité, lui ordonner de se lever, de prendre son brancard, de retourner chez lui. Mais pour le moment, les critiques ne se font pas attendre, en tout cas du côté des scribes, ils résonnent en leur cœur. Ou bien encore, ils murmurent, ils s'interrogent, et ils ont raison de s'interroger. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Jésus blasphème. Jésus perçoit le mécontentement des scribes. Cet agacement est facile à deviner. L'évangéliste Marc ne donne aucun détail sur la foule, sauf sur les scribes. Il dit simplement qu'ils étaient assis. Et ce sont les seuls à être mentionnés dans cette attitude. Alors en Israël, être assis, c'est être dans la posture de celui qui enseigne ou de celui qui écoute l'enseignement. Et celui qui est assis est un sage, quelqu'un de respectable et de respecté. Celui qui est assis sait. C'est quelqu'un de sérieux, de pointilleux, avec un légalisme plus ou moins étroit. Mais ici, être assis peut peut-être vouloir dire quelque chose de plus. Être assis, c'est être dans une attitude repliée, une attitude de réserve, de retrait. Et l'on sait que les scribes étaient sceptiques à l'égard de Jésus, dont le discours en dérangeait plus d'un. Et là où Jésus les déstabilise, les scribes s'accrochent à l'enseignement de Moïse comme quelque chose d'inamovible. Le scribe ne se laisse pas ébranler par la nouveauté, il reste de marbre. Et pour le coup, le plus paralysé n'est peut-être pas celui qu'on pense. Alors c'est pour cela que Jésus se tourne vers eux. Le paralysé, lui, est guéri. Il est sur le chemin de la vie. Et Jésus, en quelque sorte, il ne peut plus rien pour lui. Il a tout, en quelque sorte. Mais il reste encore les scribes à convaincre, à faire bouger dans leur tête, dans leur mentalité. Et Jésus ne manque pas d'humour. Il leur dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Qu'est-ce qui est le plus facile à enseigner ? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche. Jésus a l'air de faire de l'humour, mais en réalité, il veut faire comprendre aux scribes que ce qui vient de se passer ouvre des horizons nouveaux dans le rapport entre l'homme et Dieu. Et cette guérison est là pour montrer que le Fils de l'homme a autorité de pardonner les péchés sur la terre. Et Jésus ici emploie une expression énigmatique qui apparaîtra de nombreuses fois dans les évangiles. Cette expression « Fils de l'homme » se trouve déjà dans le Premier Testament. Cette expression désigne la figure royale du Messie évoquée par les prophètes. Et prononcé par Jésus, cela permet à chacun de le reconnaître, s'il le souhaite, peut-être, comme le Messie, c'est-à-dire celui qui apporte la libération tant attendue, mais qui sera tout autre que politique, une libération qui s'accueille sans être imposée. Et c'est tout au long de son ministère que Jésus se laissera découvrir comme Seigneur et Sauveur pour qui voudra le recevoir, en particulier si chacun ou chacune se laisse bousculer dans ses idées reçues, préconçues. Mais ce que l'Évangile nous offre aujourd'hui, c'est avant tout la valeur réparatrice du pardon. Parce que, nous le savons, il y a des maux qui enferment un être humain dans ce qu'il n'est pas forcément. Il est souvent jugé et réduit à ce qu'il fait comme une fatalité, et l'on passe à côté de qui il est vraiment. Mais il y a d'autres paroles qui, au contraire, libèrent l'être humain de la fatalité, comme ici, de la punition de Dieu et de la culpabilité, de la faute. Mais Jésus n'est qu'au début de son ministère, ce n'est pas fini, il a encore beaucoup à faire et beaucoup à dire. Mais quelque chose d'autre est possible, qui dépassera tout ce que les contemporains de Jésus ont imaginé. Il provoquera un tel désordre, un tel chamboulement, que beaucoup préféreront le faire mourir et faire mourir avec lui cette extraordinaire prodigalité de Dieu. Voilà, pour le moment, le paralysé est guéri, la foule est enseignée. Jésus s'est laissé interrompre dans son enseignement pour passer aux actes. Et il fera cela jusqu'à la croix. Juste pour que l'être humain ne craigne plus de vivre debout devant Dieu. Debout et libre. C'est aussi une parole pour chacun et chacune de nous. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début, nous aussi. Nous n'en sommes qu'au début du désordre provoqué ce jour-là à Capharnaüm. La libération promise est en route. Elle n'aura pas de fin. Nombreux sont ceux qui voudront la réglementer en l'enfermant dans de nouveaux dogmes auxquels il faudra croire sans discuter, au risque d'être rejeté, d'être exclu. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, sont tentés de réduire cette libération à un code de moralité ou à une somme de préceptes, ou en faisant une religion de perfection propice de toute façon à de nouvelles exclusions. Mais cette libération qu'offre Jésus n'a pas de condition, parce que Jésus regarde vers l'avenir. Il actualise la parole de la loi et des prophètes pour qu'elle ne reste pas lettre morte. Il transmet cette parole en s'entourant de disciples qui, le moment venu, deviendront des apôtres, qui, à leur tour, transmettront avec leurs mots à eux ce qu'ils auront reçu et compris de Jésus. L'important, ce n'est pas tant de transmettre les richesses de la parole, mais c'est de susciter de nouveaux disciples qui transmettront ce message de génération, en l'actualisant, en le rendant accessible, crédible, recevable par les nouvelles générations et aussi par les nouvelles sociétés. Parce que cette parole est entièrement tournée vers l'avenir. Et la bonne nouvelle, quand elle nous saisit, c'est qu'elle nous propulse vers un inattendu, celui de la libération. Et en quoi consiste-t-elle, cette libération? Sans doute en la guérison des maladies de l'individu, comme ce fut le cas pour le paralysé de notre histoire. Mais nous savons que toutes les guérisons physiques ne se produisent pas et qu'il nous faut bien accepter notre finitude. Mais dans cette guérison, nous pouvons y voir la promesse d'autres guérisons, celles de nos relations humaines au sein de notre monde politique et social, guérison destinée sans doute, sans aucun doute, à une société aujourd'hui paralysée, afin qu'un monde plus juste puisse advenir où chacun aura sa place sans être inquiété. N'est-ce pas la promesse de l'Évangile? Si cette parole est la promesse d'une vie en abondance, alors elle n'a pas fini de provoquer d'autres désordres. Parce que la vie, sous toutes ses formes, c'est un mouvement, un élan, une bousculade, un cheminement, un déplacement et même un renversement, où les premiers seront les derniers. Mais les derniers seront les premiers. où un grain de moutarde deviendra le plus grand arbre du royaume, où les prostituées et les collecteurs d'impôts précéderont dans le royaume les gens à la bonne conscience, où un petit enfant deviendra la personne la plus importante. Un verre d'eau partagé au bord d'un puits, le plus grand critère d'amour, et où les pêcheurs d'un lac deviendront des témoins connus du monde entier. C'est cela que je qualifie de joyeux désordre, que d'autres appelleront dynamisme créateur, que le Dieu de Jésus-Christ ne cesse d'orchestrer afin que les êtres humains, croyants ou non finalement, ne se lassent ni d'innover, ni d'espérer, ni d'aimer. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le numéro 407. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Agnès, pour ce désordre si bénéfique. Aujourd'hui, nous accueillons les scouts qui sont là pour vous réjouir avec leur gâteau. Alors, je vais te demander, Gaëtan, de nous présenter à la fois l'équipe que tu représentes et puis aussi le projet que vous avez avec le fruit de vos ventes de gâteaux.
Alors, bonjour à tous, moi c'est Gaëtan. Je fais partie de la patrouille des Léopards de l'Oratoire du Louvre et on vend des gâteaux aux gens qui sont ici au culte, mais aussi aux gens dans la rue qui ont besoin de manger ou encore aux gens juste de passage. Et avec cet argent récolté, on aimerait justement financer l'exploration du camp qui consiste à marcher pendant 2-3 jours autour de notre lieu de camp, pendant notre camp d'été. Et justement, on aura besoin de cet argent pour se nourrir, trouver peut-être un petit logement, ou en tout cas remercier la personne qui nous hébergera pendant une soirée. Et aussi pour racheter du matériel qui est peut-être un peu endommagé, et financer aussi notre infirmerie de patrouille. Voilà. Merci à tous.
Merci beaucoup et bon courage parce que ce matin il fait pas très chaud et donc voilà, encouragez-les surtout en participant à cette vente pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être venus se refroidir pour rien. Il faudrait surtout pas. Et merci beaucoup d'organiser toutes ces activités pour les plus jeunes qui sont avec vous aussi, pour cette coéducation que le scoutisme permet et qui responsabilise les grands adolescents et les jeunes adultes pour qu'ils puissent s'occuper de plus petits qui eux-mêmes s'occuperont d'autres après. Merci beaucoup. Cette semaine, beaucoup de belles activités encore. Vous pouvez regarder sur la newsletter. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. À la fin des pages du site de l'oratoire, vous pouvez toujours trouver de quoi vous inscrire. Vous cliquez, vous mettez votre adresse mail et c'est fait. Et vous allez retrouver les cours de grec de cette semaine, l'atelier de peinture du lundi. Vous allez retrouver donc des activités qui peuvent vous intéresser. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours le faire. Nous aurons aussi jeudi avec Agnès la pause spirituelle ici à 12h30 dans ce temple. Vous pouvez venir prendre une pause avec Agnès et pouvoir dialoguer ensemble sur un texte biblique et vous retrouver ensemble dans ce moment de spiritualité, de calme et de repos. C'est un moment, vraiment une pause qui fait beaucoup de bien dans la vie. N'hésitez pas à venir. Et puis aussi, le week-end prochain, nous avons beaucoup de belles activités qui se prépare. Le samedi, nous aurons à 18h avec Sarah Kim et son frère Jakim, donc au piano et violoncelle. Ils joueront tous les deux pour nous dans un concert spirituel sur la rêverie, qui sera rêverie musicale, mais aussi rêverie des prophètes. Donc n'hésitez pas à venir à ce concert spirituel à 18h ici à l'Oratoire du Louvre. Et puis le lendemain, le dimanche 5, donc à 10h30, au culte, vous aurez la joie de rencontrer, si vous ne le connaissez pas encore, Ephrem Hazard, qui vient prêcher pour nous ici, qui est dominicain et qui s'occupe de l'association Entre deux Rives, qui est une association qui fabrique au jour le jour la paix entre des communautés historiquement déchirées par la guerre, déchirées par des conflits de toutes sortes et des conflits religieux. Et il travaille entre l'Irak et la France. Et c'est un ami que l'Oratoire du Louvre m'a permis de rencontrer, puisque c'est lors d'un baptême que nous avons concélébré que cette amitié s'est tissée ici. Et donc je suis extrêmement heureuse de pouvoir le retrouver avec Agnès dimanche. On le retrouvera ici et nous sommes très heureux de le retrouver. Et puis juste après le culte, nous aurons le temps de livre et spiritualité, où là j'aurai la tâche heureuse et délicate, puisque de présenter le livre que Jean-Pierre Clairaut, qui n'est autre que mon mari, beaucoup le savent ici, a écrit un essai donc philosophique, un essai de philosophie sur le discours religieux. Et c'est un livre que vous pouvez trouver à la librairie qui s'appelle, d'un titre assez énigmatique, dont nous parlerons dans la présentation du livre, « S'il suffisait d'être enterré », qui est une citation du philosophe Fichte. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous la présentation de ce livre extrêmement important sur la question du discours religieux. Et puis, la semaine d'après, nous avons un événement important aussi, le 12 février, nous aurons ici toute une journée tournée vers un hommage que nous voulions à tout prix rendre à ceux qui ont aidé, il y a 80 ans, 63 enfants à échapper aux griffes du nazisme. Et donc nous avons la joie parce que ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans ce monde et qui sont capables de mettre leur vie en jeu pour sauver les autres. Et donc nous aurons l'avantage de pouvoir commémorer ce moment ici. Vous savez que l'Oratoire du Louvre est déclaré maison de vie parce que ici il y a eu des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont été courageux parfois jusqu'à mettre leur vie en péril pour que d'autres puissent vivre parce qu'ils trouvaient inacceptable que parce qu'ils étaient juifs, il n'est pas le droit de vivre dans notre monde. Et donc, il y a eu des gens pour les aider, les sauver et les extirper à cette douleur immense qu'a été le nazisme pour notre Europe. Donc, je vous invite à venir le 12 pour vivre ce moment. Il y aura le culte le matin, évidemment, ici, avec les enfants de l'école biblique. Nous avons associé le scoutisme à cette journée parce que le scoutisme, il y a 80 ans, était associé à cette opération de résistance. Et puis, nous avons aussi associé d'autres associations. Vous découvrirez toutes ces belles personnes et toutes ces belles associations qui sont avec nous. Et je voudrais citer la Clairière qui a donné le démarrage d'une association extrêmement importante, encore aujourd'hui un centre social, mais qui est devenu le Centre d'Action Sociale Protestant à Paris. Et donc c'est extrêmement important de savoir que tout ça a eu des suites qui ont aidé énormément de gens dans notre société. Donc venez pour commémorer ce moment avec nous, et puis nous pourrons donc vivre aussi la présentation du livre de Monsieur Vergara, qui s'appelle La promesse de l'aube, je crois que c'est ça. Le chemin de l'aube, oui, pardon, parce que là je fais des confusions entre les auteurs et les livres. Voilà. En tout cas, je vous invite donc à participer à ce moment, donc dès 10h30 le 12, et vous retrouvez tout sur le site internet de l'Oratoire du Louvre. C'est maintenant le moment de l'offrande. Donnez le cœur joyeux, car ici nous vivons des choses essentielles pour nos vies, et c'est grâce à vos dons que tout cela est possible. Merci.
Alors, au moment d'entrer ensemble dans la liturgie de Sainte-Cène, je vous invite à écouter cette préface. Éternel, Dieu de la vie, nous te louons et nous te disons notre joie de pouvoir t'appeler notre Père. Tu nous aimes tel que nous sommes, chacun de nous est important à tes yeux. Tu es le seul à faire simplement, pleinement confiance à chacun d'entre nous et à espérer en nous, même quand tout est mort, même quand il n'y a plus d'espérance. En nous donnant ton Fils, tu nous montres ta tendresse. Il est né au monde pour que nous vivions de son esprit. Il est mort et ressuscité pour que les hommes deviennent tes enfants et que notre terre devienne fraternelle. Ensemble, ici et maintenant, nous te chantons notre reconnaissance et nous prenons le répond par toi pour une fête.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. » pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Prions. Éternel, Dieu de la vie, Dieu de Jésus-Christ, nous voici devant toi avec nos paralysies, nos empêchements, nos immobilités, nos incapacités à contourner les obstacles. Tu nous accueilles comme Jésus a accueilli cet homme paralysé, sans a priori et avec amour. Par cet amour sans condition, tu nous transformes et tu nous guéris. Tu désires nous mettre en marche à ta suite pour faire de la vie une fête, une joie. Aide-nous à accepter et à dépasser ce qui retient nos pas, nos mots, nos réconciliations, nos enthousiasmes. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des certitudes qui nous empêcheraient de te découvrir tel que tu es vraiment et qui nous ferait passer à côté de la nouveauté de l'Évangile. Fais de nous des hommes et des femmes qui soutiennent et aiment celles et ceux qui nous entourent. Donne-nous cette joie de les encourager à te rencontrer. Aide-nous à les porter, à contourner les obstacles qui les empêchent de vivre. Merci pour cette bonne nouvelle qui toujours se propose, mais jamais ne s'impose. Qu'elle nous remplisse de ta vie en abondance, qu'elle nous aide à nous lever et à marcher derrière toi en mettant nos pas dans les tiens, puisque tu as choisi de nous précéder en tout. Et nous rassemblons nos prières imparfaites dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Venez, venez, car tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est lui-même qui nous donne cette nourriture. Voici la table que nous avons dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur.
Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui met sa confiance en Jésus le Christ a la vie éternelle.
Thank you.
Merci pour ce pain et pour ce vin qui nourrissent notre quête d'une vie en plénitude. Toi qui te tiens dans la patte de nos jours et qui sais combien façonner l'être humain est un artisanat délicat, apprends-nous les paroles qui vivifient, les regards qui font exister et les gestes qui redonnent confiance. Tiens-nous à la juste distance les uns des autres. Garde-nous de l'indifférence comme de la mainmise, afin qu'à travers nos rencontres, ta promesse passe vers demain, là où tu seras tout en tous. Amen. Et que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure, mais que jamais non plus le scandale mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre tendresse, plaisir, liberté, confiance, ne se referment en des certitudes figées, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse et la passion d'un monde autre. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route, que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous comme un défi, l'amour de la vie. Amis, frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.